semaine de l'événement pratiquement le plus incroyable qui est jamais arrivé. De l'événement qui a marqué le monde. On célèbre le 25 décembre la venue de Jésus, n'est-ce pas? Et on fait la fête partout. La naissance d'un bébé. Mais Pâques, pendant 2 jours, on célèbre sa mort. Pendant 2 jours, les ennemis font la foire, font la fête. On l'a eu, il est mort. Mais finalement, il est ressuscité. Et dans 15 jours, le monde va pouvoir être au fait que Jésus n'est pas mort, mais qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et qu'est-ce que nous allons faire, nous, le peuple de Dieu? Qu'est-ce que l'Église évangélique, le phare, va pouvoir faire pour montrer que Jésus est vivant? Je propose ce matin qu'elle devienne une Église kérigmatique. On dit, c'est quoi ce nom? Une Église qui proclame l'Évangile. Une église qui proclame, kérigma, le kérigma c'est la proclamation. Une église qui affirme, qui vit, qui dit oui c'est vrai. Oui c'est vrai, j'en suis témoin. Oui c'est vrai, Jésus est vivant, il est dans ma vie. Oui Jésus m'a sauvé. Dans la première épître aux Corinthiens, si vous voulez bien tourner les pages de l'écriture, il est dit ceci, 1 Corinthiens 15. Je rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, enfin il est apparu à plus de 500 frères de la foi, à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que nous avons cru. Voilà le message, mes amis. Le kérigma, c'est l'annonce de l'Évangile. Nous avons reçu, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, une mission. Cette mission nous transmet une vision. Et cette vision nous amène à une stratégie. Mission, vision, stratégie. La mission, c'est d'être des témoins. Vous recevrez l'Esprit Saint et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Vision, atteindre ceux qui nous entourent et bien au-delà. Hein, comme disent Walt Disney and Beyond. Stratégie, équiper chaque chrétien à le faire. Pas quelques chrétiens, pas une équipe. Éphésiens 4 dit d'équiper tout le monde pour que nous puissions le faire ensemble, pour que notre voix soit unanime, soudée, unitaire. Mes amis, est-ce qu'on se prépare à cet événement? Est-ce que on commence à cacher les œufs dans le jardin? Est-ce qu'on commence à préparer l'agneau? Ou est-ce que quelque part on se prépare, on dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va y avoir un grand événement le 14 juillet, auquel j'espère un grand nombre vont participer. Ça se passera au Havre, dans un stade où on rassemblera les chrétiens de France. On espère en avoir 30 000. Sur 500 000, c'est pas mal. Mais moi, je veux croire que dans la semaine du 10 au 14, du 10 au 16, l'église évangélique de Vigneux, les chrétiens, ça veut dire, ça veut dire les murs, hein, les chrétiens vont pouvoir affirmer haut et fort, proclamer haut et fort que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant et qu'il a changé leur vie. De morts qu'ils étaient, ils sont devenus vivants. Au commencement, genèse de l'histoire, Marc 1:1, commencement de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Regardez bien, il ne commence pas par la mauvaise nouvelle. L'évangile de Marc commence en disant commencement de la bonne nouvelle. Commencement de la bonne nouvelle. Au chapitre 4, verset 4, il est marqué: Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant, proclamant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Proclamant. C'est incroyable que le monde est capable de proclamer plein de choses, n'est-ce pas ? Beaucoup de bêtises, très peu de vérité. Et nous qui sommes chrétiens, qui connaissons la vérité, qui avons la vérité, qui avons été sauvés par la vérité, est-ce que nous proclamons cette vérité ? Est-ce que quelque part on la fait voir au monde ? Est-ce qu'on l'imprime dans ce monde ? Ou est-ce qu'on la garde bien au fond pour nous ? Comme la loi de 1905 voudrait qu'on y arrive. Au verset 14, il est dit: après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile, proclamant la bonne nouvelle, le kérigme. Il disait: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mes amis, ce qui est extraordinaire, c'est que nos ancêtres, et ce n'est pas les Gaulois, nos ancêtres, ceux qui étaient là avant nous, n'ont pas eu peur. N'ont pas craint d'être rejetés, de payer le prix, d'être différents. Et vous savez quoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu peur. Parce qu'ils n'ont pas eu honte de l'évangile de selon Romains 1:16. Eh bien, nous sommes là ce matin. Et on peut pas s'asseoir tranquillement en disant: mais ils l'ont fait. Et d'autres le feront, n'est-ce pas ? Mais Dieu nous a transmis cette mission. Vous serez mes témoins. Allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle. Pas cachez-la. Enterrez-la. Protégez-la. Jésus avait dit à ses disciples: allez à Jérusalem et vous recevrez l'Esprit Saint. Ils étaient tout feu, tout flamme, les apôtres. Mais Jésus leur donne une zone géographique, toute courte. Il leur dit: la planète entière est pour vous. Et là, ils se disent: comment on va faire ? Alors il leur dit: attendez, je vais vous donner l'outil essentiel, l'Esprit Saint, pour être mes témoins. Et au chapitre 2 des Actes, il est marqué: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Vous voyez que l'unité est nécessaire, mes amis. Ils étaient tous ensemble. Chacun attendait pas dans son quartier, dans son salon, dans sa chambre. Mais ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ceux qui étaient autour, crétois, arabes, comment les entendons ? Entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Dieu nous a donné une langue capable de nous exprimer, capable de dire ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce que nous croyons, ce que nous espérons. Et Dieu nous a dit de nous servir de cette langue pour communiquer l'Évangile, pour faire connaître la bonne nouvelle dans la langue de ceux qui sont autour de nous. Et ce qui est intéressant dans cette salle, c'est que si on fait parler toutes les langues, eh ben on va toucher des peuples. Si je compte bien, il y a plus de 20 peuples qui peuvent être touchés. Au moins. Sans parler des langues. Est-ce que nous sommes dans l'attente? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, je suis prêt. T'as changé ma vie, t'as transformé ma vie, je veux le dire aux autres. Soyons honnêtes. Pour beaucoup, nous disons, mais Seigneur, j'ai la trouille de ma vie. Écoute, envoie-moi, mais alors, si tu pouvais envoyer quelqu'un d'autre, ça serait pas mal. N'est-ce pas? On est un peu tous là, hein? Seigneur, j'ai peur. J'ai peur de te faire connaître. Mais j'ai pas honte. Parce que je sais que tu es vivant, que tu es celui qui m'a transformé, que tu es celui qui m'a pardonné, que tu es celui qui m'a justifié, que tu es celui qui m'a sanctifié. Mais j'ai peur. Alors Pierre, se présentant devant les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille à mes paroles. Nous avons un message important. Un message qui demande de l'attention de ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas? C'est pas un message mélangé avec Thompson du Crotin, c'est mieux pour votre main. Faut passer à autre chose. Faut qu'on clarifie ce qu'on dit. Et comment on le fait? Parce que nos vies ont été transformées. Nos vies ont été transformées. Nous étions morts et nous sommes vivants. Et on peut se présenter devant cette foule, devant ces gens, en leur disant, mais on n'est pas en train de vous parler d'un message qui pourrait marcher. Ce n'est pas un faux message, on n'est pas des faux témoins. Mais ça a marché dans ma vie. Et ça a marché dans la vie de tous ces gens. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Regardez bien, il ne parle pas à des gens qui ne connaissent rien du tout. Et quand on parle à des gens, et quand on leur dit « Vous connaissez Dieu ?» Oh, vous savez, moi, il y a longtemps que j'habite dans la cité, hein, s'il habitait là, je le saurais. On connaît l'histoire. On a appris des choses. On a éventuellement été témoin de choses. Mais regardez, être témoin de quelque chose ne fait pas de nous des croyants. Témoin d'un événement ne fait pas de nous l'accidenté. Si on est témoin d'un accident, on n'est pas accidenté, n'est-ce pas? Témoin de Jésus-Christ, c'est ceux qui ont vu, qui ont cru et qui se sont repentis. Pas juste ceux qui ont vu les miracles. Oh, j'ai vu Dieu, il est capable de faire ça dans la vie des autres. Mais pas dans la mienne. Proclamation. Vous avez un message. Hein, ça fait, quand j'ai écrit ça, j'ai pensé à un vieux film que certains de ma génération connaissent, pas les jeunes. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Est-ce que nous nous rendons compte? Et je crois que des fois on a tellement peur et on minimise tellement. Quelle est la puissance du message que Dieu nous a donné? Quelle est la puissance du message que Dieu nous donne? Et Dieu nous donne, nous offre des occasions tous les jours, n'est-ce pas? Dans notre travail, parmi nos amis, dans les magasins. dans les endroits où on est, de pouvoir rendre témoignage. Mais Dieu nous donne aussi l'occasion, le jour de Pâques, la semaine pascale, de dire aux gens, réveillez-vous, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce Jésus que vous avez crucifié, comme moi, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il est vivant. Et il n'a pas fait ça juste pour lui, il a fait ça pour vous sauver, pour vous sortir de l'état où vous êtes. Vous avez un message, vous avez une mission. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous. Premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, c'est aux Juifs qu'il parle, mais puisque vous le repoussez, que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Et on est content qu'ils se soient tournés vers les païens, hein ? Sinon on ne serait pas là. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Il glorifiait la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Il y a une lumière là sur le coin. Elle éclaire plus grand chose. Hein. La petite lumière. Il y a un petit phare, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, qui est juste là en bas. La pile n'a pas été changée depuis 10 ans, donc ça n'éclaire plus rien du tout. L'objectif d'un phare, c'est quoi? C'est d'éclairer, c'est de guider. La parole de Dieu, c'est une lumière qui brille et on ne la cache pas, la lumière. On veut la montrer. Est-ce que je peux croire que pendant ce temps pascal, ensemble, on va élever très haut la lumière de Jésus? On chante, Seigneur, fais briller la lumière dans notre pays, mais pas avec moi. Je suis pas là, je suis en avec. Bien. On souhaite qu'il se passe des choses, mais on ne souhaite pas y être inclus. Oh, Seigneur, toi tu as toute la puissance, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, c'est pas avec moi. Parce que moi, je ne sais pas le faire. Moi, j'ai jamais appris. Au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mes amis, à l'église, il y a quatre piliers. Il n'y a pas la fraction du pain, la fraction du pain, la fraction du pain et la fraction du pain. Il n'y a pas la prière, la prière, la prière et la prière. Il y a l'enseignement. Qu'est-ce qu'il y a? La communion fraternelle. La communion fraternelle. C'est prendre du temps ensemble. C'est se connaître. C'est s'inviter. C'est partager. C'est échanger. Et la prière. Vous voyez que c'est intéressant. C'est pas moi qui le dis. C'est pas le pasteur qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. S'il manque un pilier, mes amis, ben la maison, elle va tomber. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce. Regardez bien les faits. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Parce que les changements qui se faisaient en eux étaient visibles dehors. Donc ils ne restaient pas enclavés entre eux, mais ils sortaient. Et c'était visible. L'amour, le soutien, le pardon, la prière, le respect, la communication. Wow. Ça fait du bien de voir ces choses, non ? Et de savoir que si aujourd'hui, là, à Vigneux-sur-Seine, nous sommes là, c'est parce que Dieu a été fidèle. Et parce que des hommes et des femmes ont accepté les défis qui étaient devant eux. Alors, ce qui est intéressant quand on lit l'histoire du livre des Actes, l'histoire de l'Église, Dieu nous a laissé 6 magnifiques tableaux, des tableaux de progression. à la fin du premier chapitre, au chapitre 6, verset 7, il est dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » La parole se répandait. Le nombre de disciples, de ceux qui croyaient, augmentait. Et une grande foule, même ceux qui étaient opposants, croyaient. Deuxième chapitre, au chapitre 9, au verset 31, il est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » L'Église était en paix, elle se construisait, elle marchait dans la crainte, dans le respect, et elle grandissait par le Saint-Esprit. C'est beau, non ? Au chapitre 12, troisième partie du livre. « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. » Chapitre 16, quatrième chapitre. « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. » Les églises, pas simplement les disciples. Il y avait de plus en plus d'églises. Cinquième chapitre, au chapitre 19, c'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Oh. Sixième chapitre et dernier chapitre, Paul demeura 2 ans entiers. Il avait obtenu d'aller à Rome. Et il savait qu'en allant en Rome, il allait pouvoir annoncer une fois pour toutes l'évangile, mais que certainement il y perdrait la tête. Mais en attendant, pendant ces 2 ans d'attente, il avait loué une maison, il recevait tous ceux qui venaient le voir, il prêchait le royaume de Dieu en enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et regardez bien cette phrase. En toute liberté, sans obstacle. Il est en prison, il est en résidence surveillée, il va certainement mourir. Et la chose qui le préoccupe, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Mes amis, nous, à ma connaissance, on n'est pas condamné à mort. À ma connaissance, il n'y a personne qui va passer en procès prochainement et qui risque la peine de mort ou l'électrocution. Mais est-ce que nous sommes en paix ? Est-ce que nous sommes prêts à montrer, à faire connaître ce Dieu qui nous a changés ? Ce Dieu qu'on avait enterré. Ce Dieu à qui on avait même mis 16 gardes devant sa tombe pour pas qu'il sorte. Et ce Dieu qui a été ressuscité. Alors pour proclamer cet évangile ensemble, ça implique 2 choses. Des leaders apostoliques, des gens qui ont cette mission, et des évangélistes parmi nous, il y en a, qui prêchent l'évangile. On peut le faire ensemble. On a besoin, ce matin, Dijou, il a dit à nos amis qui nous visitent pour la première fois, on a besoin de chaque partie, de chaque membre. Et si Dieu vous a mis dans l'église, s'il vous a introduit dans son église, c'est parce que vous y avez une part. Et chacun a sa part. Mais c'est en se mettant ensemble, en se rassemblant. Plus on est nombreux, plus le diable tremble. Plus on est seul, plus il rigole. Ces croyants sont rassemblés et vivent en communauté intentionnelle. Intentionnelle, ça veut dire j'y vais. On ne me tord pas le bras pour que j'y arrive. Ce n'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que quelque part Dieu m'a donné la liberté de participer à cette action extraordinaire, être un témoin. Et ce n'est pas juste le jour de Pâques, mais c'est chaque jour de l'année. Mais je propose que nous utilisions cet agenda que l'État nous offre. L'État, il croit en rien, lui, mais il a un agenda où c'est marqué Pâques. Et pour ça, il libère toutes les cloches. Et elle voyage. Et ces cloches, c'est nous. Rassurez-vous, c'est nous, j'en fais partie. Alors profitons de l'événement. C'est la résurrection de Jésus dont on parle. C'est le prix du pardon. Le vendredi, on va présenter ce film de Jésus. La vie de Jésus. J'espère qu'on y amènera des gens. Parce que nous, on la connaît, la vie de Jésus. On la lit, la vie de Jésus. Et on connaît le film. Et on sait comment ça se termine. Mais j'aimerais que on prépare cet événement. On prépare cette semaine tous ensemble, dans la prière. Parce que l'évangile n'est pas compliqué à prêcher. Dieu a fait des églises pour qu'elles soient partenaires entre elles. Regardez, l'église de Philippe. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Au verset 27, il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, afin que soit que je vienne, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme. » Il avait des hommes et des femmes partenaires. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans notre Seigneur d'une manière digne des saints, que vous l'assistiez. Saluez Prisca, Aquilas, mes compagnons d'œuvre. Saluez Épinaïte. Nous sommes tous partenaires de l'Évangile, n'est-ce pas ? Nous avons des églises partenaires. Des églises qui diffusent l'Évangile aussi. Mais nous sommes partenaires les uns les autres. Et on peut mettre notre nom comme collaborateur, n'est-ce pas ? Collaboratrice. Il n'y a pas de les hommes ou les femmes, c'est les hommes et les femmes ensemble. C'est quoi une église charismatique ? C'est une église qui exprime son changement de vie. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Une église qui montre des changements. Une église qui parle de qualité. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ce n'est pas juste ici. Qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur. Dit que les femmes plus jeunes. Dit que les jeunes garçons. Dit que les jeunes filles. Dit que les jeunes gens. Dit que les pères. Dit que les mères. La qualité de vie touche chacun d'entre nous. Apprendre aux jeunes femmes, etc., etc., aux jeunes gens, aux serviteurs. Et regardez bien ce qui est intéressant, c'est que notre qualité de vie, au verset 5, elle dit que si notre qualité de vie n'est pas la bonne, et bien finalement, elle blasphème la parole de Dieu. C'est intéressant ça. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et regardez bien, verset 10, « Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. » Waouh, ça c'est une qualité. Une parole juste. En racontant notre histoire, vous connaissez le chant, hein ? Dites-moi l'histoire de Jésus. « Conduisez-vous avec sagesse, Colossiens 4, 5, envers ceux du dehors. » Du dehors. « Rachetez le temps. » Ne perdez pas votre temps. Que la parole, votre parole soit toujours accompagnée de... Elle n'est pas tout le temps, n'est-ce pas ? Assaisonnée de sel pour conserver, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dans la participation à la multiplication d'églises. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, car je lui rends grâce qu'il a été d'une grande sollicitude pour ceux de Laodicée, d'Hierapolis, la multiplication d'églises. Pas la multiplication simplement des croyants. Waouh ! N'est-ce pas la chose la plus extraordinaire que Dieu nous ait donnée ? La chose la plus incroyable ? Remettez-vous avant que vous connaissiez Jésus-Christ. Est-ce que quelque part dans votre tête, vous disiez, tiens, un jour, voilà, je serai en train de parler de Jésus-Christ, je serai en train de témoigner de Jésus-Christ, j'irai à l'église et je témoignerai dans la rue. Non. Seigneur, je ne peux pas faire ça. participation du progrès de l'Évangile. Priez en même temps pour nous, c'est Paul qui parle, afin que, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jésus. C'est une prière, mes amis, que nous puissions partager l'Évangile pendant la période de Pâques. Que nous profitions de cet événement calendaire, mais qui a marqué le monde, pour faire connaître Jésus-Christ. Alors le kérigme, cette proclamation, il n'est pas si compliqué à apprendre. Et vous allez voir tout à l'heure que vous le connaissez. Pour nous sauver, c'est ça le kérigma. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, a quitté son ciel pour venir sur la terre. Il est bien celui qui a été annoncé par les Écritures. Il a fait le bien, mais a été rejeté. Il a été arrêté, il a été crucifié et il est mort. Il était enseveli, il est ressuscité, il est apparu aux disciples, à plus de 500 frères, il est monté au ciel où il nous prépare une place. Et il reviendra nous chercher et il jugera les vivants et les morts. C'est pas ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 15 ? C'est bizarre, ça tient en quelques versets. Et on sait pas. Et on se demande qu'est-ce qu'on va annoncer ensemble. Alors en conclusion, amis, notre mission, c'est d'être témoin, n'est-ce pas ? Notre vision, c'est d'atteindre ceux qui nous entourent, la ville de Vigneux, de Villeneuve, de Montgeron, de Juvisy, de Draveil, et ailleurs. Mais quelle est notre stratégie ? De nous équiper. Et vous savez qu'on a un équipement incroyable, et dans notre église, en plus, il y a plein de gens qui aiment beaucoup pratiquer. C'est le chant. Et on a un magnifique chant qu'on a chanté au début de mon message, qui est juste la synthèse de ce que je viens de dire. On va le rechanter ensemble, et cette fois on va se lever. Et ce chant, vous le connaissez, puisque tout à l'heure vous l'avez entonné. Je vous le remets, et on va demander à Sarah de nous le rejouer une fois. Et on va le chanter ensemble. Il y a d'autres chants, hein. Il y a « Je crois en toi », il y a « Tu es venu du ciel sur la terre », il y a... Non, mais celui-là, je trouve qu'il résume bien le kérigma.
Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Viens du ciel sur la terre, monter la voix de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Le message, il est là, mais vous le connaissez. Alors ma prière, c'est que pendant le temps de Pâques, nous soyons tous ensemble pour l'annoncer, pour le montrer, pour le proclamer. Parce que Jésus est vivant.
Amen.